France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Le contre-sommet du G7 n'attend pas le G7 pour mobiliser toute la semaine au Pays Basque. Les militants de dizaines d'organisations altermondialistes, d'ONG, de partis politiques, de mouvements syndicaux se donnent rendez-vous pour exprimer à travers rencontres et manifestations un rejet de la mondialisation telle qu'elle se fait et de l'ordre libéral tel qu'il est représenté selon eux par le sommet officiel du G7 qui s'ouvre à Biarritz samedi, à Hendaye à la frontière espagnole et à Irun juste de l'autre côté, à quelques dizaines de kilomètres. De Biarritz, les premiers altermondialistes sont arrivés hier et les travaux du contre-sommet, rencontres, conférences et ateliers débuteront officiellement demain matin, ce qui nous donne l'occasion de faire un point avec nos invités sur l'état du mouvement altermondialiste. Annick Coupé est avec nous en studio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale d'ATTAC, oui. Merci d'être là. Et Christophe Ventura est au téléphone ce matin avec nous, bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche à l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique, l'IRIS, vous êtes chercheur en relations internationales. Annick Coupé, ce contre-sommet du G7 fera office pour attaque d'université d'été de rentrée. Donc vous espérez voir dans ces quelques jours le point de départ peut-être d'un automne de mobilisation?
Écoutez, oui, ça fait partie des objectifs de ce contre G7, mais d'abord, c'est, je pense que ce contre G7, c'est aussi l'idée de montrer que il y a le monde du G7 officiel. Ce que représentent ces sept représentants des parmi les pays les plus riches du monde, et puis. En face, il y aura le contre G7 avec une diversité de mouvements sociaux qui vont faire à la fois le bilan des politiques menées cette année, notamment en France, mais aussi d'un plan international, mais aussi évidemment parler des perspectives de rentrée, des problèmes qui se posent dans notre pays et plus largement.
Vous voulez parler de quoi, de quel sujet, des migrations, de la justice climatique,
c'est très large. On va d'ailleurs prendre au mot le G7 officiel, puisque le G7 officiel prétend, et Emmanuel Macron l'a mis beaucoup en avant, lutter contre les inégalités. Pour nous, c'est vraiment un point de vue assez totalement hypocrite et scandaleux quand on voit le bilan des politiques menées par ces gouvernements. Je lisais hier que les dividendes versés aux actionnaires ont explosé au deuxième trimestre, alors même que la croissance au niveau mondial est en difficulté et qu'une crise financière vraisemblablement peut arriver dans les mois ou les années qui viennent et peut-être pire qu'en 2008. Donc, et puis je dirais que sur les inégalités, quand même, quand on regarde la politique menée par ces gens-là, en termes, alors Emmanuel Macron sur le plan social par exemple, on a eu cette année toute la séquence des Gilets jaunes qui ont montré comment les inégalités dans nos pays se développent, comment la question des services publics est abandonnée, mais je dirais quelle hypocrisie que Trump parle des inégalités entre les hommes et les femmes, par exemple, ou la question de la politique d'accueil des migrants, quand on voit que les murs en réel, comme aux États-Unis, se montent, ou les murs légaux et les polices qui empêchent les migrants d'arriver avec des catastrophes humanitaires telles qu'on connaît encore ces jours-ci. Donc franchement, un G7 qui prétend lutter contre les inégalités, alors que même que ce sont les politiques menées par ces dirigeants qui aggravent les inégalités en matière sociale, en matière environnementale, en matière de relations entre les pays.
Pour vous, c'est quoi? C'est du cynisme, le fait que le sommet du G7 soit consacré à cette lutte, en tout cas ce qui est annoncé contre les inégalités? Ce serait pas pire s'il ne le faisait pas?
Écoutez, de toute façon, on verra. Enfin, je pense qu'il ne sortira pas grand-chose parce que par ailleurs, il y a des contradictions très fortes et on est dans une période de guerre commerciale ouverte et très forte, notamment avec la politique menée par les États-Unis, mais pas seulement. Je pense que on est toujours dans une séquence où ces sept pays, c'est les dirigeants de ces sept pays, prétendent d'une certaine façon dominer le monde, ce qui est complètement anachronique. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une crise systémique, écologique, il y a l'avenir de la planète même est en jeu, il y a une crise sociale extrêmement importante au niveau international, et par rapport à ça, sept pays prétendent diriger et dicter au monde ce qu'il faut faire. C'est complètement... ça n'a aucun sens, et c'est illégitime, c'est antidémocratique, donc de ce point de vue-là, ce G7 se veut, un directoire du monde, mais ça n'a aucun sens en 2019. œuvre. Mmh. Et l'autre chose quand même, c'est que je pense que Emmanuel Macron veut sans doute aussi redorer son blason au niveau international en organisant ce G7 avec quand même un faste relativement important et symboliquement le faire dans la ville de Biarritz de façon complètement hors sol symbolise aussi pour moi le fait que c'est aussi un président hors sol aujourd'hui.
Ça a longtemps été hors sol, hein, les sommets internationaux comme le G7. Bertrand Badie, qui était à votre micro hier, Annick Coupé nous expliquait qu'il s'agissait surtout, et c'est ce que vous venez de dire d'ailleurs, de politique interne. Ce sont sept politiques internes, hein, qui vont se mener. Est-ce que ça sert encore à quelque chose le G7? Parce que c'est ce qu'il nous disait aussi, ça sert peut-être plus à grand chose, c'est de l'affichage. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de lutter contre ce qui va se passer là pendant trois jours à Biarritz?
En tous les cas, même des grosses ONG qui participent à l'espace de la société civile à l'intérieur du G7 sont aujourd'hui extrêmement critiques. C'est-à-dire que même ces ONG qui jouent le jeu du dialogue...
Qui ont un pied dedans, un pied dehors.
Voilà, pour certaines d'ailleurs, elles sont dans le contre G7 aussi, disent clairement qu'il n'y a aucun espace de discussion où leurs propositions puissent être entendues par les dirigeants de ces sept pays. Donc effectivement, c'est à la fois quelque chose... Mais c'est en même temps une opération de communication pour ces dirigeants qui, dans leur propre pays, sont en contradiction totale avec cette lutte contre les inégalités, puisqu'ils font complètement le contraire de ce qu'il faudrait faire, que ça soit en matière fiscale, par exemple, si on prenait cet exemple-là. Je disais tout à l'heure que les dividendes versés par les multinationales ont explosé au deuxième trimestre de cette année. Ça montre bien qu'il n'y a aucune politique pour rééquilibrer un tant soit peu la richesse produite dans le monde.
Christophe Ventura, vous qui êtes chercheur en relations internationales et spécialisé sur les mouvements altermondialistes, ce mode de contestation tel qu'il est représenté là au sommet du G7, il a évolué tout au long des dernières années. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le mouvement altermondialiste dans ses dynamiques et dans sa santé?
Écoutez, le mouvement altermondialiste est un mouvement qui a eu une phase de propulsion très active, surtout à la fin des années 90, à partir de 95-99, avec le sommet de Seattle contre l'OMC, et tout au long des années 2000, avec ce qui a pu être considéré comme une forme d'essoufflement, bizarrement d'ailleurs, à la fin des années 2000, alors que la crise mondiale de 2008 avait éclaté, confirmant tous les diagnostics et toutes les observations qui avaient été faites par ce mouvement sur l'évolution de la mondialisation. Mais en fait, ce qui se passe quand on regarde bien, c'est que le bilan de ce mouvement, il faut le voir un peu dans le long terme, et c'est un mouvement qui a déjà, produit une deuxième génération de tout ce qu'on a pu voir des Occupy Wall Street aux États-Unis, à Podemos en Espagne, en passant même par Syriza en Grèce, etc. Toutes ces expériences-là sont un peu, d'une certaine manière, le produit de ce mouvement qui a comme acquis surtout probablement d'avoir produit une nouvelle culture politique en fait de contestation et de prise en compte des problématiques liées à la mondialisation néolibérale, qui est aujourd'hui une critique qui a essaimé dans tout un tas de secteurs, auprès de tout un tas d'acteurs, qu'ils soient dans le champ syndical, qu'ils soient dans le champ associatif, bref, et aujourd'hui la question environnementale et écologique, c'est un peu le deuxième âge en quelque sorte de ce mouvement qui n'a plus les formes qu'il pouvait avoir dans les années 2000, mais qui continue aujourd'hui d'être actif, et on le voit aujourd'hui dans un moment de rassemblement un peu saillant comme ce contre-sommet du G7.
Mais il faut toujours un sommet pour un contre-sommet, Christophe Ventura?
Est-ce qu'il faut un sommet pour un contre-sommet? Disons qu'il faut comprendre que ce genre de sommet ont une utilité, en tout cas, c'est que c'est un moment, de visibilité politique et médiatique très fort auprès des opinions publiques mondiales. Et donc, utiliser ces sommets comme des points d'appui pour organiser une visibilité collective à un mouvement qui est très divers et qui a une multiplicité d'acteurs en son sein, ça reste toujours une opportunité importante pour un tel mouvement. Donc ces contre-sommets ont toujours cette fonction-là et permettent, si on va un petit peu en dessous de la surface, permettent à ces mouvements d'avoir des temps de rassemblement, d'articulation, de travail en commun pour préparer des agendas qui sont peut-être moins visibles pour le radar médiatique ou les opinions publiques en général, mais qui sont très utiles au travail de ces mouvements et à l'animation de leur campagne et de leurs actions conjointes.
Je vous posais la question du sommet et du contre-sommet, Christophe Ventura, parce que le Forum social mondial, tel qu'on l'a connu, qui a été aussi très fort dans les années 2000 au début, s'est aussi essoufflé assez considérablement. Cette initiative seule, on a l'impression qu'elle est en perte de vitesse.
Alors, disons que, enfin, moi, mon opinion est la suivante, c'est que, je disais tout à l'heure que certainement la principale réussite du mouvement intermondialiste, c'est d'avoir, créé une culture politique, mis en mouvement et organisé tout un tas d'acteurs internationaux autour d'un logiciel critique de la mondialisation néolibérale telle qu'elle va. Mais la limite de ce mouvement, ça a été d'être capable d'exister comme un acteur en soi, en quelque sorte. Et puis surtout d'exister au niveau global et d'agir au même niveau que peut agir le monde des multinationales, le monde de la finance ou le monde des gouvernements à cette échelle-là. De ce point de vue-là, ça n'a pas perduré. Et donc le Forum social, il a été impacté par ça parce qu'il avait, comme vocation de tenter de construire justement un mouvement international qui était pérenne. Et là-dessus, ça a moins marché. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce mouvement, c'est la crise de 2008 qui a été, à mon avis, un virage parce que le Forum social mondial est né dans un contexte très différent au début des années 2000, dans un monde qui était très différent. La mondialisation était au contraire avec bonne presse, elle était en progression. Il y avait aussi un cycle de lutte sociale internationale très différent avec en particulier un chaudron en Amérique latine qui a beaucoup stimulé, irrigué ce processus. Et tout ça, avec la crise de 2008, a changé avec une fragmentation de l'agenda international, un retour à des espaces de combat plus nationaux, et puis des gouvernements qui ont commencé à développer aussi des politiques beaucoup plus nationales. Et tout ça a peu finalement impacté aussi la dynamique intermondialiste, obligeant d'ailleurs beaucoup d'acteurs et d'organisations et de mouvements liés à l'intermondialisme à se redéployer dans des agendas plus nationaux et à délaisser peut-être un peu plus le terrain international. Et c'est pour ça que ce processus a perdu un peu de sa substance, ou en tout cas de son impact tel qu'il pouvait l'avoir dans les formes avant 2008.
Annick Coupé, secrétaire générale d'Attac, sur ce que vient de dire Christophe Ventura.
Alors, je partage beaucoup des éléments développés par Christophe Ventura sur l'analyse. Il me semble aussi qu'il y a peut-être aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement il y a de nouvelles générations qui se reconnaissent finalement dans cette idée d'altermondialisme d'une façon ou d'une autre, notamment face à cette crise qui conjugue inégalités sociales, enjeux environnementaux. On voit bien, par exemple, avec l'implication de la jeunesse dans les mobilisations pour le climat, par exemple, de ces derniers mois.
Ouais, ils sont vraiment que sur le climat.
Oui, c'est plus compliqué que ça, parce que, par exemple, on a eu à Paris une manifestation au début de l'année où le mot d'ordre « fin du monde, fin du mois » était assez largement mis en avant. C'est-à-dire que la question des inégalités, qu'elles soient environnementales ou des inégalités sociales, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience sur les faits que les deux ne sont pas des choses séparées. Et on voit bien, par exemple, que c'est les populations les plus défavorisées au niveau international, mais même en France, qui subissent le plus les conséquences de la crise climatique. Donc on voit bien que cette articulation qui n'existait pas du tout dans les années passées commence à se faire. Et à mon avis, c'est un enjeu très important des années qui viennent. Mais je pense qu'il y a un autre élément sur aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le mouvement intermondialiste au sens très large du terme, c'est qu'il s'ancre beaucoup dans les territoires. Et je pense que ce qui se passe à Biarritz avec le G7 et ce qui va se passer ces jours-ci à Hendaye montre ça. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire, le Pays Basque, qui a une forte tradition de lutte sociale, politique, culturelle, etc. Et en fait, avec des mouvements sociaux locaux qui ont développé des alternatives et qui en fait sont des alternatives qui peuvent être qui peuvent être utiles et qui peuvent servir d'exemple pour montrer qu'il y a des alternatives finalement à ces politiques menées par les grands du G7. Donc je pense que effectivement on est peut-être dans une nouvelle séquence, mais pour moi l'aspiration qui était celle du mouvement altermondialiste, c'est-à-dire à construire des espaces de convergence, de culture politique commune avec des références communes, avec des acteurs très divers, que ce soit des mouvements paysans, des mouvements féministes, on voit l'importance du mouvement féministe ces derniers temps, hein, que ce soit en Europe, en Amérique latine ou dans d'autres pays, et ces enjeux environnementaux, mais aussi je pense très concrètement, par exemple en France, on a eu le mouvement des Gilets jaunes toute l'année, qui a mis en avant la question des inégalités, mais on a eu aussi des mouvements sociaux très forts dans les services publics, je pense aux hôpitaux ou dans l'éducation nationale. On a des mouvements contre la répression policière, notamment dans les quartiers populaires, avec cette question des violences policières. Donc, et tout ça, finalement, on va en parler au contre-sommet. Donc c'est un moment aussi où on peut mettre ensemble, en convergence, en discussion, ces questions-là pour construire aussi peut-être des rendez-vous communs.
Annie Coupé, vous ne nous dites pas quand même que les Gilets jaunes sont des altermondialistes convaincus depuis le début et de manière générale? Mais
évidemment, d'abord, les Gilets jaunes, ça ne veut rien dire. Vous savez comme moi que les Gilets jaunes, c'est une idée dans laquelle se retrouvent beaucoup de gens et dans laquelle, effectivement, il y a des positionnements divers. Mais je pense que les Gilets jaunes ont montré cette question de l'injustice fondamentalement. Pour moi, c'est ça, enfin, ce qu'il faut retenir du mouvement des Gilets jaunes, c'est cette question d'injustice et que des gens ne supportent plus cette injustice parce qu'ils vivent au quotidien des situations extrêmement difficiles, et aussi cette question de la démocratie, de qui s'exprime, qui est visible dans l'espace public, etc. Et bien sûr que vous allez demander à des Gilets jaunes s'ils sont altermondialistes, ils vont sans doute vous dire que non, ou en tous les cas ne pas voir ce que c'est cette référence. Mais par exemple, pour moi, dans le mouvement altermondialiste, c'est la solidarité. Bon. Et donc là, on voit aussi que ce mouvement, il a posé des questions de solidarité et de lien social. Donc pour moi, c'est des choses qui vont se débattre justement au contre-sommet à Hendaye et Irun, et où on va essayer de trouver ce qui fait sens commun. Finalement.
Mais est-ce que c'est pas là le problème, justement, Annick Coupé? Tout à l'heure, Christophe Ventura nous disait la mondialisation aujourd'hui a beaucoup moins bonne presse que dans les années 90, où on ne savait pas trop encore réfléchir autour de tous les enjeux qui étaient liés aux conséquences de la mondialisation. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est pas une trop grande diversité des combats, une trop grande diversité des luttes, quelque chose de pas assez lisible, finalement?
Alors, effectivement, on peut dire que c'est éclaté, donc il n'y a pas de lien, etc. Bon, moi, je crois que les liens, ils sont en train de se construire, encore une fois, vraiment, je pense, de façon importante. Et c'est ça, je pense, qui doit... Enfin, l'objectif de ce contre-sommet, c'est aussi de voir quels sont ces liens possibles. Bon, mais je pense que, en fait, c'est très important pour moi qu'il y ait des contestations diverses à partir des réalités de terrain. C'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose qui pouvait être un discours assez général contre le capitalisme néolibéral, etc., qu'il faut évidemment toujours avoir pour comprendre le monde dans lequel on agit. Mais ce capitalisme néolibéral, il est aussi aujourd'hui, il y a des contradictions, on l'a vu avec les États-Unis et la Chine, par exemple, etc. Mais en même temps, au-delà des contradictions, ces pays continuent à mener des politiques dévastatrices pour la planète. Par exemple, on a vu sur cette affaire d'accord entre le Canada et l'Europe, le CETA, pardon, je veux dire ce que ça va avoir comme conséquence. Donc, à la fois, il y a des contradictions entre les politiques de ces pays menées par ces dirigeants, et en même temps, ils continuent d'aller dans le même sens, qui est un sens destructeur de la planète, destructeur des solidarités, destructeur des droits au niveau international et dans les autres pays. Donc c'est ça, à mon avis, qui s'exprime dans la diversité des mouvements. On l'a vu aussi avec le mouvement féministe, c'est-à-dire que c'est effectivement en Amérique latine, dans un contexte de régression extrêmement important par rapport à ce qu'on avait connu dans les années 2000, comme le disait Christophe Ventura, eh bien, en fait, c'est le mouvement féministe qui s'est levé et qui a mis des dizaines de milliers de femmes dans les rues pour revendiquer l'égalité. Mais on voit bien que l'égalité entre les hommes et les femmes, ça suppose aussi de changer des structures dans un pays.
Une des questions qui se posait à Attaque, votre mouvement, Annick Coupé, dans les années 2000, c'était aller sur l'échiquier politique ou pas. Alors, ça vous a longtemps été reproché. Vous avez fait le choix de pas y aller. Est-ce que ça aurait pu faire changer les choses et éviter ce trou d'air qu'a connu Attaque et le mouvement altermondialiste?
Oui, alors, il y a eu un trou d'air qu'a connu Attaque, mais aujourd'hui, Attaque est une association qui se porte trop relativement bien, qui a développé ces dernières années des actions symboliques de désobéissance civile, qui s'est attaqué aux multinationales, par exemple, et à l'impunité des multinationales, et qui a aussi fait le lien justement entre les enjeux écologiques et les enjeux sociaux, et qui a au cœur de ses préoccupations aujourd'hui la question de la justice fiscale, la justice sociale, la justice environnementale. Bon, mais la question du rapport aux politiques, pour moi, il n'y a pas une voie sacrée. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le politique qui serait d'un côté et puis les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux font de la politique. Et par exemple, à Hendaye, au contre-sommet, il va y avoir des débats avec des représentants politiques. C'est-à-dire qu'on est aussi pour créer des espaces de débat où on n'a pas forcément la même fonction, mais où on doit pouvoir se parler, s'affronter, je dirais, ou en tous les cas mettre les contradictions sur la table et débattre ensemble. Et il n'y a pas pour moi de hiérarchie entre d'un côté les partis politiques et de l'autre côté les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux dans notre pays et dans beaucoup de pays font de la politique au sens enjeu de société.
Annick Coupé, secrétaire générale d'ATTAC, Christophe Ventura de l'IRIS, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après le journal de 8h qui sera présenté dans quelques instants par Maxime Fayolle.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Le contre-sommet du G7 n'attend donc pas le sommet du G7 pour mobiliser. Toute la semaine au Pays Basque, les militants de dizaines d'organisations altermondialistes, elles sont environ 80, d'ONG, de partis politiques, de mouvements syndicaux, se donnent rendez-vous pour exprimer un rejet de la mondialisation telle qu'elle se fait, de l'ordre libéral tel qu'il est représenté par le sommet officiel du G7 qui va s'ouvrir à Biarritz samedi. Un sommet hors sol, nous disait il y a quelques minutes avant le journal de 8h, Annick Coupé, qui est notre invité ce matin et qui est secrétaire général d'ATTAC. Également avec nous au téléphone, Christophe Ventura, qui est chercheur en relations internationales, directeur de recherche de l'Institut de recherche internationale et stratégique. Christophe Ventura, tout à l'heure, Annick Coupé nous disait la diversité des combats et des luttes est une chance. On lui posait la question de savoir si c'était pas aussi un problème pour le mouvement altermondialiste qui semble avoir du mal globalement et aussi au niveau national à parler peut-être d'une voix unique et à montrer peut-être quelque chose de peut-être plus simple à suivre.
Bah, je dirais que c'est un petit peu les deux en même temps et ça dépend un petit peu des contextes et des configurations. Il y a des moments où ça a pu être plus une chance ou des moments où ça a pu être plus un problème. Ça dépend un petit peu de finalement de la feuille de route et puis de l'agenda de ces mouvements. Une chance parce que par définition, c'est ce qui lui confère aussi sa légitimité à ce mouvement. C'est d'être capable finalement d'embrasser des acteurs qui viennent vraiment de tout un arc de force très large de la société organisée, quoi, hein, que ce soit les secteurs syndicaux, les secteurs associatifs, les secteurs féministes, la jeunesse, les secteurs paysans, enfin tout ça qui ont des traditions chacune, chaque secteur a sa tradition, son histoire. Et là, le tour de force et le succès du mouvement dit altermondialiste, c'est d'avoir été capable à un moment donné de construire les conditions et un espace pour que il y ait un travail commun qui soit fait entre ces secteurs-là, et pas forcément un travail d'ailleurs commun permanent et puis unifié, mais plutôt la possibilité des moments de frapper ensemble sur un objectif, de cibler un objectif et d'être capable de travailler ensemble, peut-être, et après en repartant chacun dans son aire d'action, etc. Donc ce mouvement, sa réussite, elle est là. Évidemment, de l'autre côté, le fait de pas pouvoir dépasser ce stade-là ou de pas pouvoir fusionner en quelque sorte tous ces secteurs dans un acteur global, c'est un problème dans le sens où ça limite la visibilité et l'identification de ce mouvement comme un sujet en quelque sorte, au même titre qu'un gouvernement ou qu'un forum ou je ne sais quoi. Mais en même temps, je crois que pour les acteurs de ce mouvement-là, c'est pas tellement la problématique. Et puis, en plus, c'est un mouvement qui a aussi, on parlait tout à l'heure de la question politique, à sa façon, il a quand même contribué à des traductions politiques, parce que sans ce mouvement, je vous disais tout à l'heure, il n'y aurait pas eu, ou pas dans la même forme, que ce soit Podemos en Espagne, que ce soit le renouveau du Parti démocrate aux États-Unis avec le phénomène Bernie Sanders, par exemple, une partie des gens qui sont autour de Jeremy Corbyn, etc., etc. C'est dans chaque pays, il y a eu des mouvements ou des phénomènes qui sont nés au début des années 2010 et qui sont largement redevables à ce mouvement et des phénomènes qui ont pu être directement, eux, politiques.
Vous nous disiez que les enjeux environnementaux allaient porter le nouvel âge de l'altermondialiste, Christophe Ventura. Pas question pourtant de laisser de côté évidemment les aspects sociaux, comme le disait Annie Coupé. Fin du monde, fin du mois, ça c'est le nouveau mot d'ordre, Christophe Ventura, du mouvement altermondialiste à travers le monde.
Ah oui, c'est indéniablement autour de ça que ça se joue. Dans les années 2000, justement, un des apports, ça a été de construire une articulation de manière assez indissociable entre la question sociale et la question environnementale, du point de vue conceptuel. Et bah aujourd'hui, il est clair que c'est autour de ça que les mouvements les plus actifs, eh bien aujourd'hui, tracent leur route. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est autour de ça que, disons, se forge le nouveau paradigme des mouvements sociaux et des mouvements contestataires à l'échelle planétaire.
Annie Coupé.
Oui, bah tout à fait. Je pense que c'est aussi parce que effectivement, on est dans une situation, enfin, en 21e siècle, où les enjeux sont peut-être plus les mêmes qu'il y a 50 ans ou 100 ans. Et donc, la capacité des mouvements sociaux dans leur diversité à penser à la fois globalement cette articulation. Et en même temps à agir localement, c'était aussi ça le début du mouvement altermondialiste. Et je pense que c'est toujours ça, c'est-à-dire que d'être ancré dans les territoires, dans les réalités vécues par les uns et les autres, et en même temps d'avoir une vision politique, une capacité d'analyse qui permette effectivement de faire ces articulations. Et pour moi, c'est aussi, je disais tout à l'heure, c'est une façon de faire de la politique qui redonnera du sens à des projets d'émancipation. Alors c'est sûr que ça demande du temps, c'est parfois compliqué, mais on n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que si on veut combattre efficacement ce capitalisme néolibéral tel qu'il se déploie aujourd'hui et tel qu'il est destructeur des solidarités, de la planète, des droits, etc., eh bien, il faut être capable aussi de tracer des voies d'émancipation qui seront différentes au XXIe siècle de ce qu'ils ont été au XXe siècle ou au XIXe siècle.
C'est pour ça qu'on l'inscrit dans le concret, ce mouvement. Le contre-sommet du G7 se porte aussi sur des exemples très 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 concrets, très locaux. Hein.
Bien sûr.
Annie Coupé, c'est le fait d'articuler les grands enjeux
et du local. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ce qui va se discuter, se voir, se mettre en visibilité à Andaïroun dans ces jours-ci, eh bien, c'est à la fois cette analyse politique, etc., mais c'est aussi de montrer qu'il y a des exemples très concrets. Et au Pays Basque, par exemple, la Confédération paysanne, qui est très présente, a monté une chambre d'agriculture alternative. L'organisation BICI, très ancrée au Pays Basque, a fait une étude très précise sur le nombre d'emplois qui pourraient être créés par des politiques alternatives respectueuses de l'environnement et des droits sociaux. Donc ça, c'est aussi très important. Et quand je disais tout à l'heure qu'on a d'un côté un G7 hors sol totalement, qui est obligé de se protéger avec des dizaines de milliers de policiers, de forces de l'ordre, etc., dans un contexte sécuritaire hallucinant pour les populations mêmes, hein, qui vont subir ça pendant ces journées, eh bien, de l'autre côté, on a des mouvements très ancrés dans des réalités.
L'altermondialisme par l'exemple, vous validez, Christophe Ventura, vous qui avez une vision longue, sur le temps long de l'altermondialisme, parce que ça ne s'est pas toujours passé forcément comme ça.
Écoutez, en fait, Annie Coupé aussi a une vision très longue de l'altermondialisme, son point de vue, de ce point de vue-là, est tout à fait important. Non, ce que je voulais dire, c'est que le défi, pour dire les choses comme ça, certainement pour ce mouvement dans les nouvelles conditions actuelles, c'est qu'il faut à la fois qu'il continue à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire ce qu'on s'est dit, et puis pour le dire autrement, c'est vrai que c'est un mouvement qui a irrigué aussi pas mal de pratiques sociales innovantes. En fait, c'est un mouvement qui a nourri tous les mouvements qu'on voit un peu partout, y compris en France. On a parlé du Pays Basque, mais de tout ce qui est lié au mouvement des AMAP, à tout ce qui est lié aux réflexions sur la relocalisation de la production, sur la consommation circuit court, enfin tout ce qui mobilise vraiment beaucoup, beaucoup de gens dans la société de plus en plus et qui en mobilisera de plus en plus. Ça, c'est une chose très importante. Donc c'est finalement l'incubateur de nouvelles pratiques sociales qu'il y a aussi dans ce mouvement. Mais il faudrait en tout cas que en même temps qu'on ne perde pas de vue non plus que si on veut transformer la société et transformer l'ordre international critiqué, eh bien évidemment il faut continuer aussi à se mobiliser contre ce qui produit les structures en fait économiques et sociales de cette mondialisation. Il faut pas que disons on se retrouve simplement dans la construction d'une sorte de d'autres sociétés ou de contre-sociétés. Enfin, c'est en tout cas un débat qui traverse ce mouvement-là. Il faut continuer, évidemment, et c'est pour ça que ces contre-sommets ont une utilité, parce qu'on se confronte aussi au dur, en quelque sorte, au hardware, si je puis dire, de la mondialisation, avec les questions de la financiarisation, avec la question des politiques sécuritaires, etc. Donc, il faut pas, disons, oublier ces questions-là pour simplement creuser le sillon, disons, des pratiques innovantes. Il faut tenir les deux bouts. Ça fait partie des choses qui sont en discussion.
Il y a un autre enjeu, Christophe Ventura, peut-être pour le mouvement altermondialiste aujourd'hui, parce que cette mondialisation, vous le disiez tout à l'heure, qui n'a plus forcément bonne presse, contrairement aux années 90, elle est aussi contestée et de manière de plus en plus visible par les mouvements populistes. Elle est aussi contestée par la droite. Ça, c'est aussi un autre enjeu de la lutte.
Tout à fait. C'est vrai que la grande différence finalement entre le cycle des 2000 et maintenant, c'est que dans les années 2000, on était en pleine montée en puissance de cette globalisation. Et aujourd'hui, il y a une crise de l'hégémonie néolibérale qui est saillante et qui fait que la part du rêve libéral qui était vendue avant aux populations n'opère plus, et ça joue dans tout, ça affecte tous les courants politiques, que ce soit ceux de la gauche ou de la droite. Il y a des critiques de gauche et des critiques de droite de cette mondialisation à partir de constats sur cette faille, enfin sur cette crise de l'hégémonie, mais avec des solutions ou des orientations qui sont très différentes. Mais en tout cas, c'est ça le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, il y a à la fois une floraison, puis une concurrence finalement, on va dire, d'hégémonie entre tous les courants qui contestent cette mondialisation-là. Et c'est ça qui est en train de s'écrire aujourd'hui, c'est ça dans lequel on est, oui.
Annie Coupé.
Justement, je pense que c'est important de réaffirmer l'altermondialisme, justement, par rapport au débat dans lequel on voudrait nous enfermer, c'est-à-dire soit d'un côté, c'est exactement le débat qu'on a eu sur les Européennes, d'ailleurs Macron disant, il y a moi et la modernité, le progrès, etc. Et le libéralisme, et de l'autre côté, l'extrême droite. Et il n'y avait pas, droite, extrême droite. Et effectivement, je pense que l'altermondialisme est porteur d'autre chose, c'est-à-dire qu'il est porteur d'une contestation de cet ordre libéral, de cette mondialisation qui, tous les dégâts qu'elle a fait, mais il est aussi porteur de solidarité internationale, il est aussi porteur la question de l'accès des droits fondamentaux à toutes et tous sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire que c'est une autre voie que nous portons de la contestation, effectivement, de cet ordre libéral. Et pour nous, il est très important que ça s'exprime. Et ça s'exprimera notamment à Hendaye et à Irun, puisqu'on aura des débats importants sur la question de l'accueil des migrants, par exemple. Et ça, pour nous, c'est fondamental. C'est-à-dire que, effectivement, ne pas se laisser déporter sur ce que raconte la droite et l'extrême droite, sur la réponse à cette mondialisation, qui serait un retour à la fermeture des frontières, un retour à l'entre-soi qui ne correspond pas du tout à la réalité des enjeux du XXIe siècle.
Pour vous, le tableau là, du G7, c'est la droite et l'extrême droite. Ça rappelle un peu le second tour d'élection présidentielle,
Écoutez, en France. Je pense qu'on veut nous enfermer dans ce débat-là, et je pense que justement, c'est très important que le mouvement altermondialiste s'affirme comme tel, avec des valeurs de solidarité, d'accueil, de partage des richesses, etc. Ce qui n'est pas du tout ce que raconte l'extrême droite.
Comment est-ce que vous allez faire avec les accusations de violence liées au mouvement altermondialiste?
Je suis suffisamment ancienne et j'ai suffisamment d'expérience des mouvements sociaux pour savoir que quand
il y a la criminalisation de ces mouvements,
particulièrement en France. Et là, pour le coup, Emmanuel Macron est vraiment en responsabilité de cette répression extrêmement lourde. Enfin, pour ma part, j'ai jamais connu une répression des mouvements sociaux depuis que je milite, et ça fait longtemps, telle qu'elle s'est passé cette année, c'est-à-dire des dizaines de personnes mutilées, des yeux éborgnés. Je pense à ce qui s'est passé avec notre camarade Geneviève Le Guay à Nice et les mensonges d'État. Je pense à cette dame de 80 ans à Marseille qui a été tuée, Zined, je ne sais plus son nom de famille, je m'en excuse. Et donc là aussi, effectivement, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a de la contestation, eh bien, on nous met en avant le risque de violence. Or, les violences, on peut en faire le constat, cette année, elles sont venues de la manière dont le gouvernement français a géré la contestation sociale qui est montée dans notre pays. Pour notre part, nous avons un consensus d'action publique pour une action non violente, etc., pour une manifestation festive. Nous avons un groupe de médiation, donc tout est fait de notre côté pour qu'il n'y ait pas de violence et que les choses permettent à tout un chacun d'exprimer ses positions par rapport à ce G7. Mais nous craignons effectivement les provocations policières. Et le nombre de policiers déployés au Pays Basque, le nombre de centres qui sont prévus pour retenir des manifestants, y compris préventivement, parce que ça aussi c'est un peu le problème, c'est-à-dire que maintenant on arrête des gens avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit. Donc il y a un dispositif qui est mis en place non seulement policier, mais aussi structurel par l'État français pour... Enfin, nous craignons aussi, effectivement, qu'il y ait des provocations policières assez largement voulues par le gouvernement.
Merci beaucoup, Annick Coupé, secrétaire générale d'Attaque. Merci aussi à Christophe Ventura, chercheur en relations internationales, directeur de recherche à l'IRIS. C'était Zineb Redouane, cette octogénaire Merci. Marseillaise qui est décédée, effectivement, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Merci à tous les deux. Il est 8h30 sur France Culture.